Alors, pendant le mois de décembre, notre église a étudié un livre de la Bible qui s'appelle Ruth. C'est l'histoire de deux veuves qui traversent des moments difficiles, mais Dieu intervient dans leur vie. Et c'est grâce à leur histoire que même Jésus va naître à Bethléem des siècles plus tard. C'est pour ça que nous l'avons étudié pendant ce mois de décembre. Alors, ce matin, nous allons voir la conclusion, le dernier chapitre de l'histoire. Je vous lis maintenant Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Alors, en chapitre 3, cet homme Boaz avait dit qu'il était prêt et volontaire pour prendre soin de Ruth, cette veuve, et l'épouser. Mais il doit encore régler quelques affaires. Donc nous lisons chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Ah, je ne puis racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Alors prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'on notait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiers pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qu'il faut enfanter à Juda par Tamar. » Boaz prit Ruth et devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et l'enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-mère qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David, le fameux roi David. Voilà, dans ce chapitre, nous assistons à la fin heureuse de cette belle histoire, cette petite histoire. En chapitre 1, tout avait commencé avec une famine, et là, ça termine avec une belle moisson. Ruth venait de rentrer à la maison chargée de farine. L'histoire avait commencé avec la mort et la stérilité. Ces deux veuves avaient perdu leur mari, Naomi, ses enfants. Et ils étaient sans enfants, donc l'histoire avait commencé avec la mort et la stérilité. Et ici, ça termine avec une famille, un enfantement qui vaut 7 fils, même
Ça commence avec Naomi dans l'amertume, chapitre 1, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère. » Et ici, Naomi retrouve la joie, elle est restaurée. C'est une belle histoire, l'écrivain allemand Goethe avait appelé ce livre « La parfaite petite histoire ». Et pour lui, il était un fameux écrivain, donc c'est une belle recommandation. Qu'est-ce qui rend cette histoire si belle? Qu'est-ce qui transforme la mort en vie? Qu'est-ce qui transforme la tristesse en joie? Parce qu'on sait tous que dans la vraie vie, il faut plus qu'une baguette magique ou un claquement de doigts facile pour transformer le mal en bien, pour que toutes ces épreuves que vive Naomi se transforment en joie. Ça ne se fait pas automatiquement, dans la vraie vie en tout cas. Qu'est-ce qui rend cette histoire si belle? Eh bien, c'est une histoire de rédemption. Ce qui change tout, c'est lorsque Boaz rachète les terres et les propriétés de Naomi, et ainsi il prend et il va acquérir Ruth comme épouse. Presque tous les versets de ce chapitre évoquent la notion du rachat, le droit de rachat, et c'est un thème majeur de ce livre. Il y a cette phrase qui revient souvent, « L'homme ayant droit de rachat ». En français, ça fait 6 ou 7 mots, mais en hébreu, c'est un seul mot qui veut dire « rédempteur »,« racheteur ». L'homme ayant droit de rachat, et ce rédempteur joue le rôle clé de cette histoire de Ruth. Tout cela dans le cadre des coutumes de l'époque, selon la loi de Moïse, qui nous sont un peu étrangères, mais avec ce décès, cette veuve, il y avait possibilité de restaurer cette famille par des lois concernant la rédemption. L'autre jour, notre famille, avec un de mes enfants, on écoutait Minuit Chrétien, puisqu'on a chanté dimanche dernier, je crois qu'on revisionnait la vidéo du culte, et le fameux chant Minuit Chrétien, le chaque refrain, voici le Rédempteur. Voici le Rédempteur, d'ailleurs, ce qui rend ce chant si beau aussi, c'est que ça parle d'un Rédempteur. Et mon enfant, mon garçon, me demande, papa, c'est quoi un Rédempteur? C'est vrai, c'est un mot un peu compliqué qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans nos affaires courantes, à la banque ou au mariage, alors qu'eux, ils étaient un peu plus présents dans leur culture. C'est quoi un Rédempteur? Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu ne nous a pas donné un dictionnaire Larousse pour comprendre, mais il nous a donné la Bible et des histoires de la Bible pour nous aider à comprendre cette notion de rédemption, du rédempteur, et nous aider à comprendre que Dieu est un Dieu rédempteur, et nos vies peuvent s'inscrire dans une histoire de rédemption. Et c'est ça qui fait les plus belles histoires. Alors, je vous invite vous-même à découvrir ce matin votre Rédempteur. Et pour cela, à travers ce chapitre, nous allons voir ce thème de la rédemption. D'abord, le rachat de Ruth, ensuite la rédemption de Naomi, et enfin la rédemption de tout le peuple. Donc, 3 rédemptions, celle de Ruth, celle de Naomi et celle de tout le peuple. Tout d'abord, regardons le rachat de Ruth. Dans les premiers versets, effectivement, Boaz, le chapitre 3 avait terminé avec Boaz qui avait trouvé Ruth à ses pieds une nuit et elle s'était proposée un peu en mariage et il dit qu'il voulait bien et il lui avait donné un gage de ce qu'il allait prendre soin d'elle. Et il lui avait donné une quantité énorme de blé pour elle. Donc elle est rentrée chez elle et lui, il avait dit « je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que je règle cette affaire ». Et donc, il était rentré directement à la ville, est allé à la porte de la ville, c'est là où c'était un peu ça servait de la mairie, le tribunal, les portes de la ville. Et donc, il va rassembler des témoins, des anciens de la ville. Mais l'histoire nous avait laissé un peu dans le suspense, parce que Boaz, qu'on commence à déjà beaucoup aimer, il est noble, il est riche, il est gentil, on ne sait pas s'il est beau ou pas, mais on le souhaite pour Ruth. Et en tout cas, c'est un héros qu'on aime bien, mais il nous a fait savoir qu'il n'est pas le plus proche parent qui a droit de rachat. Il n'est pas en priorité. Il y a un autre rédempteur potentiel, et là, ça nous inquiète un peu, parce qu'on aimerait bien que Boaz et Ruth finissent ensemble. Mais il y a cet autre qu'il appelle « Approche, reste ici, verset 1, toi un tel ». On ne connaît même pas son nom, « Toi un tel ». Dans une histoire où tous les noms ont beaucoup d'importance, le fait qu'il n'est pas nommé est aussi important. Cet homme n'a pas de relation personnelle avec Ruth et il n'est pas motivé par compassion. Il ne la connaît même pas. Donc c'est juste un tel et il restera toujours pour nous un tel. Donc on va comparer Boaz, potentiel rédempteur, et cet un tel qu'on ne connaît même pas. Déjà, on voit que Boaz, il respecte scrupuleusement la loi de Moïse hein, concernant le rachat des terres et des personnes. Pas question d'un mariage en cachette. Il dit à Ruth, bon, on va fuir, on va faire notre vie heureuse comme ça. Non, il veut quand même respecter la loi de Dieu, la loi de Moïse concernant toutes ces choses que Moïse avait mis en place pour préserver l'héritage de son peuple. Donc, il propose d'abord à l'autre. Et, verset 4, j'ai cru devoir t'en informer que, voilà, Naomi vend ses terres pour sortir de la pauvreté. Donc, si tu veux racheter, c'est toi qui as une priorité, tu peux racheter. Et l'autre, verset 4, il est motivé, il dit oui, je racheterai. Et là, on est pas très rassuré. Mais quand il apprend qu'il doit prendre soin de Ruth aussi, et qu'il va devoir partager son héritage avec des enfants éventuels qu'ils vont avoir, ça, il veut pas. Ah non! Il dit au verset 4, j'ai peur de détruire mon héritage, donc non, je ne veux pas racheter. Et là, on voit la différence entre Boaz et cet untel. L'autre veut bien racheter, tant que ça ne lui coûte rien, tant que c'est purement dans son intérêt, tant que c'est pour s'enrichir, pour agrandir ses terres. Mais si ça lui coûte quelque chose, il ne veut pas. Alors que Boaz, lui, il est prêt à payer. A priori, il faut payer et ça va coûter quelque chose, puisque l'autre, il dit, ça va détruire mon héritage si je récupère tout ça. Donc, mais Boaz est prêt à payer, même le prix fort. Il y a un prix, il le fait par compassion, par amour pour Ruth, et il est prêt à payer cher pour l'avoir. Et tout comme nous avons compris la bonté et la fidélité de Ruth en la comparant à sa belle-sœur Orpah en chapitre 1 qui était partie, qui a suivi plutôt ses intérêts personnels, nous comprenons mieux la rédemption et le caractère de Boaz en la comparant à cet untel qui lui agit par intérêt personnel. L'un n'est pas prêt à sacrifier de ses biens, l'autre Boaz est prêt à payer un grand prix et assurer totalement le bien-être de Ruth. Et d'ailleurs, en cela, cette histoire nous donne la définition biblique de l'amour. L'amour qui fait que des mariages réussissent. C'est vrai que leur histoire n'est pas une histoire d'amour typique, Boaz et Ruth. Ce n'est pas un chemin typique vers le mariage. Imaginez Boaz qui va voir le pasteur. Vincent, je te présente Ruth. Je l'ai trouvée dans mon lit hier soir. Elle vient de se convertir. C'est une Moabite sans diplôme, sans ressources, elle est veuve. Est-ce que tu veux bien nous marier aujourd'hui? Ce n'est pas typique. Mais l'amour que manifeste Boaz envers Ruth, c'est l'amour qui va faire que ce mariage va marcher. Notre époque a tendance de définir l'amour autrement, des sentiments romantiques, et c'est comme ça qu'on avance vers le mariage. Alors, notre époque aurait bien demandé à Boaz, mais est-ce qu'il y avait le coup de foudre? Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce que vous vous êtes couchés ensemble pour savoir si vous êtes compatibles? Mais cette manière d'agir est plutôt égoïste, intéressée. C'est toujours, je fais ce qui m'arrange, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui m'est agréable. Mais ce n'est pas ça qui fait que des mariages marchent. C'est plutôt animé de cet amour qui est prêt à se sacrifier, comme à Boaz. Et nous tous, nous avons l'occasion encore de nos jours, encore cette semaine, de manifester ce genre d'amour envers nos proches. Mais revenons à l'acte du rachat. Comme le mot indique, rachat, un rachat, c'est lorsque quelqu'un paye, quelqu'un achète pour régler une dette, par exemple, ou pour libérer une personne esclave, ou ici pour récupérer les terres, pour sortir les personnes de la pauvreté, et ensuite assurer une descendance, un héritage. Donc, Boaz va payer, c'est-à-dire il va faire ce que les maris défunts de Naomi et de Ruth ne peuvent pas faire, puisqu'ils sont morts, et ils ne peuvent pas assurer la descendance, ils ne peuvent pas prendre soin des terres. Et donc Boaz, lui, il va payer de son argent et puis de son temps, de son cœur pour le faire. Boaz fait à la place des maris morts ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ce qui est bon, c'est que l'instant que l'affaire est conclue, l'instant qu'il procède à la signature, vous voyez, le statut de Ruth change complètement. Ce jour-là, tout change pour Ruth. De veuve, elle est mariée. De pauvre, elle est riche. D'étrangère, elle est citoyenne, à part entière. Et tout ça, c'est légal, tout ça, c'est permanent, c'est officialisé par un serment, par une signature officielle. À l'époque, c'était apparemment ce soulier qu'on notait. Aujourd'hui, ce serait devant le notaire, des signatures, des initiales, chaque page. Chaque société, tradition a des manières d'officialiser une signature. Et là, ce qu'ils font par la cérémonie du soulier. Mais en tout cas, ça fait que immédiatement, instantanément, Ruth change complètement de statut. C'est ce que fait la rédemption, c'est ce que fait le rachat. Ruth devient une citoyenne riche, mariée, immédiatement. Et tout ça, vous allez voir, va nous aider à comprendre la rédemption que nous avons en Christ. Mais avant de parler de ça, j'aimerais voir maintenant la rédemption de Naomi. Donc le rachat de Ruth se passe dans les versets 8, 9. Mais autant cette histoire raconte la rédemption de Ruth, la transformation de Ruth, autant elle raconte celle de Naomi, sa belle-mère. Et la fin, les derniers versets du livre mettent l'accent surtout sur Naomi. Regardez en verset 14. Les femmes, donc une fois que Boaz et Ruth se marient, qu'ils ont un enfant, verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer d'aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Donc Naomi est aussi rachetée, Naomi aussi un rédempteur. En verset 15, c'est Naomi qui est restaurée et qui est soutenue dans sa vieillesse. Verset 15, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Au début, Naomi disait les mains vides, elle est revenue à Bethléem, les mains vides. Et maintenant, on dit, verset 15, ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Sept, c'est ce chiffre de la plénitude. Alors, Naomi, qui avait les mains vides, maintenant, c'est comme s'il a sept enfants. Et ça, c'est beaucoup à gérer. Je peux vous en témoigner. Elle qui a perdu ses propres fils, Maclon et Kiljon, qui sont morts, et maintenant, c'est comme si elle a un autre fils. Et verset 17, c'est carrément ce que ses voisines lui disent. Un fils est né à Naomi. On dit non, elles se sont trompées, un fils est né à Ruth. Non, mais les voisines reconnaissent que c'est aussi la transformation et la rédemption de Naomi. Un fils est né à Naomi, elles l'appelèrent Obed. Obed, ça veut dire servir. Donc cet enfant va servir à restaurer Naomi. Et c'est une autre dimension de la rédemption. Il y a cet aspect de rachat, d'un paiement qui libère, mais aussi cet aspect qui libère vers quelque chose, vers la liberté, vers le bonheur, la transformation en bien. Et souvent, on utilise ce mot racheté pour évoquer ça. Est-ce que 2020 va pouvoir être racheté, c'est-à-dire transformé en bien? Et ce livre appelle cette bénédiction, cet aspect de la rédemption, ce livre appelle ça le repos. Et c'est aussi un mot-clé qui revient à plusieurs reprises, que je peux vous montrer maintenant. C'est ce que Naomi, en chapitre 1, avait souhaité à ses belles-filles. Chapitre 1, verset 9. Elle avait dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et puis, chapitre 3, verset 1, c'est encore ce qu'elle veut pour Ruth. Elle commence le chapitre 3 en verset 1 en disant, Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Bien sûr, ce n'est pas l'idée de dormir, elle ne souhaite pas une longue sieste à Ruth, mais ce qu'elle souhaite à Ruth, c'est une situation confortable, c'est une délivrance de l'inquiétude, c'est une délivrance de l'épuisement, des stress de la vie, parce qu'effectivement, en tant que veuve, avec tout ce qui leur est arrivé, une famine, des deuils, l'avenir inconnu, ce n'est pas reposant. Et c'est intéressant, Boaz dit à la fin du chapitre 3, verset 18, lui il dit, Naomi, c'est « Cet homme ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait réglé cette affaire. » Donc Boaz va pas se reposer jusqu'à ce qu'il puisse offrir du repos à Ruth. Et ce repos, c'est même un grand thème biblique. Encore, c'est plus que la fatigue physique, mais c'est tout ce qui crée pour nous, le contraire, c'est tout ce qui crée pour nous cette stress, de l'épuisement. Pensez à cette année 2020. Cette année 2020 n'a pas été reposante, n'a pas été épuisante, alors que nous étions moins actifs que d'habitude. On était confinés, on pouvait moins sortir, on pouvait faire moins de sport, et pourtant l'année était plus fatigante. Pourquoi ? Parce que c'était émotionnellement fatigant. Il y avait une incertitude face à l'avenir. Il y avait la précarité des situations professionnelles qui nous privent du repos de l'âme. Et donc nous aussi, nous avons besoin de ce même repos. Nous avons besoin d'une situation de sécurité, à quoi aspire l'homme. La sécurité, le repos. Nous aimerions savoir que 2020 serait racheté en bien, en quelque sorte. Nous aimerions savoir que les heures sombres par lesquelles nous passons, peuvent être conduits vers la paix, vers la joie, vers ce repos dont parle ce livre. Eh bien, c'est vraiment ce que la Bible offre et c'est tout ça qui est inclus dans la rédemption, dans cette histoire de rédemption. Et Ruth et Naomi va, grâce à la rédemption de Boaz, elle va trouver une situation de sécurité, de paix, de joie, ce que ce livre appelle le repos. Sa vieillesse sera soutenue, sera restaurée. Et ça, c'est ça qui rend cette histoire si belle, c'est qu'à la fois Ruth et Naomi connaissent une rédemption. Ce qui me conduit à un troisième point, une troisième rédemption, c'est la rédemption de tout le peuple. Ce livre raconte la rédemption de tout le peuple, non juste celle de Ruth, non juste celle de Naomi, mais tout le peuple. Puisque à travers l'enfant, Obed, et son enfant Isaïe, le peuple va gagner le roi David. Et là, nous avons vu ça précédemment, dimanche dernier, par le vidéo que nous ont préparé les enfants, l'arbre d'Isaïe. Et puis, nous avons vu ça encore la veillée de Noël le 24, comment cette descendance de Ruth et de Naomi va conduire à David et par la suite à Jésus, qui va aussi naître à Bethléem. Et le peuple, à ce moment, lorsque l'histoire se déroule, le peuple passe par les moments les plus sombres, et notamment, il leur manque un roi. Ruth dit que ce livre se passe au temps des juges, et si vous lisez le livre des juges, ça revient souvent, cette idée que le peuple est très mal en point, parce qu'il n'y a pas un bon roi pour le diriger, et ils sont livrés à eux-mêmes, ils font le mal, et on aspire, en lisant le livre des juges, on aspire à enfin qu'il y ait un bon roi qui vienne, un roi qui va suivre les voies de Dieu, un roi qui va ramener le peuple vers la bénédiction, vers l'obéissance. Eh bien, c'est ce que Ruth offre au peuple dans les heures les plus sombres, cette naissance d'Obed qui va déclencher, on va dire, la transformation et la rédemption du peuple, et ce que va apporter le roi David pour le peuple est grandiose. Il va les sortir des heures sombres, en quelque sorte, en amenant des victoires militaires contre les ennemis, mais bien plus que ça, il va inaugurer un vrai culte, il va écrire les psaumes, il va enfanter Salomon, qui va donner à Israël une heure de gloire. Tout ça, voilà ce qu'apportent finalement Ruth et Naomi. Donc c'est l'histoire non seulement de leur transformation, mais le début de la rédemption de tout le peuple. Et comme vous savez, comme nous avons vu cette semaine, cette généalogie, le livre termine avec une généalogie pour aider les gens à comprendre les origines du roi David. Et cette généalogie est reprise dans le Nouveau Testament, notamment par Matthieu, au début pour conduire à Jésus. Et c'est là où cette histoire devient vraiment intéressante. Elle est une image de l'Évangile, une image de l'œuvre de Dieu, de la grande rédemption qu'il est en train d'accomplir. Les personnages ici nous aident à comprendre le plan de Dieu et nous aident à comprendre notre rédemption. Et d'ailleurs, toute bonne littérature, tout art, il y a ce que l'artiste représente, mais c'est pour véhiculer un message. Quand Jean Valjean écrit Les Misérables, quand Victor Hugo écrit Les Misérables, Jean Valjean c'est un personnage, mais il représente le peuple français que Victor Hugo espère va sortir de misère par la bonté, la générosité et avoir un avenir. Et cette histoire aussi, les personnages représentent, symbolisent aussi des grandes vérités. Boaz clairement représente Christ qui paie le prix fort pour nous avoir. Il le fait par amour, par compassion, comme Boaz était animé vers Ruth. Il paie notre dette spirituelle pour nous délivrer, pour nous épouser. Lui, il a travaillé, Christ a travaillé. Il ne s'est pas donné du repos pour nous offrir du repos. Il aurait pu rester au ciel, avoir ce repos, mais il a quitté ce lieu reposant pour venir dans un monde épuisé et lui-même connaître fatigue et épuisement, notamment à la croix, pour nous obtenir le repos. Quand on compare Boaz à d'autres rédempteurs potentiels, c'est comme si on compare Christ à d'autres religions, d'autres rédempteurs potentiels. Mais les religions et les idoles de ce monde, ils agissent tous de manière intéressée. Ce n'est pas eux qui paient, ce n'est pas elles qui paient. Ils demandent aux adeptes, aux gens de payer. Il n'y a pas de compassion, pas de grâce, pas de relation personnelle. Tu dois travailler toi-même pour ton salut. Les religions, les idoles ne sont pas prêtes à payer à notre place. Il n'y a que la foi chrétienne qui parle d'un Dieu qui se sacrifie à la place du pécheur. Tous les autres disent, tu dois toi-même mériter ton bonheur, toi-même mériter ton paradis. Mais c'est ça qui est fatigant, si épuisant pour notre conscience de savoir, est-ce que j'ai fait assez pour mériter la bénédiction de Dieu? Alors que Christ, rédempteur, c'est lui qui paie. Et ce qui est beau aussi, c'est que la loi divine, la loi de Dieu, n'est pas écartée, n'est pas piétinée dans le pardon et la rédemption que Christ offre. La loi exige la perfection, la loi exige notre obéissance, la loi exige punition quand il y a faute. Et Dieu n'a pas mis ça de côté. Au contraire, le paiement de notre dette exigée par la loi, la pénalité, est payée par Christ. C'est pour ça qu'il souffre à la croix à notre place. Et il subit les peines, comme nous avons chanté, c'est lui qui a tout payé. En plus, il nous donne un gage de notre rédemption, parce que par moment, nous sommes un peu comme Ruth, nous avons la promesse de ce qui va nous épouser, mais ici-bas, la rédemption n'est pas entièrement accomplie, achevée. On attend le repos céleste final, mais il nous a donné un gage, le Saint-Esprit, pour nous rassurer, nous garantir, prendre soin de nous, jusqu'à ce qu'il complète, achève la rédemption finale. Donc vous voyez ces belles images de Boaz comme Christ rédempteur. Naomi, elle est juive. Ruth, elle est païenne, moabite. Et les deux femmes nous aident à comprendre ce plan de Dieu d'inclure juifs et non-juifs dans une même église, dans une même famille. Avec chacun, il y a une interdépendance, une bénédiction mutuelle entre Naomi la juive et Ruth la moabite. C'est par Naomi que Ruth a connu le vrai Dieu, le seul Dieu sauveur, l'éternel. Tout comme, c'est grâce au peuple juif que nous avons pu connaître la révélation de Dieu, la venue de Christ. Mais c'est par Ruth que Naomi a connu une restauration. De la même manière qu'aujourd'hui, l'Église composée de non-juifs apporte le message du salut au monde, continue à faire connaître l'Évangile et peuvent apporter aussi l'Évangile au peuple juif, par exemple. Donc vous voyez, il y a une bénédiction mutuelle entre les deux, tout comme Ruth et Naomi. Et plus que vous allez creuser cette histoire, plus vous allez voir effectivement Dieu nous offre une rédemption merveilleuse. Dieu donne la promesse d'un rédempteur et c'est ce que nous voulons saisir cette promesse pour nous, pour nos vies aujourd'hui. J'aimerais vous offrir ça, j'aimerais vous convaincre de ça, que votre vie peut s'inscrire dans une histoire de rédemption. Il y a des épreuves, il y a des peines, il y a des pertes, il y a des souffrances. Mais il y a quelqu'un qui est en train de racheter ça Jésus veut racheter ça et transformer en bien et un jour vous offrir un repos éternel, un repos céleste. Et déjà aujourd'hui, sachant que Christ a tout payé, qu'il nous aime, que c'est lui qui a travaillé, ça nous donne une paix dans l'âme, une assurance, un soutien dans notre jeunesse et dans notre vieillesse. Ça nous donne une restauration. Thierry, au début de notre culte, il avait parlé des choses qui sont en ruine, qui sont restaurées. Vous avez vu une voiture restaurée, vous avez vu peut-être une maison en ruine qui par la suite a été restaurée. Et vous, en voyant la transformation, vous êtes étonné. C'est tout à la gloire du restaurateur de prendre une maison en ruine et de le retaper. Et quand vous voyez le résultat, vous êtes émerveillé. Parfois, vous voyez le travaux en chemin et vous dites, « Ouh là là, c'est encore loin d'être accompli. » Telles sont nos vies aujourd'hui, quand on regarde notre monde. Mais le restaurateur, le rédempteur agit et est en train de produire un beau résultat. Alors oui, 2020 s'achève. C'était une année un peu ruinée, on va dire. 2021 commence et les nouvelles ne sont pas forcément super bonnes. Mais malgré ce que nous vivons, malgré ce que vous vivez, Jésus rachète, Jésus offre du repos. Alors encore ce matin, prenez-le comme rédempteur et marchez dans ses voies et attendez sa délivrance. Que Dieu nous aide à vivre ainsi dans cette foi. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour Jésus rédempteur, nous te remercions pour ce message de la rédemption qui distingue la foi chrétienne, la foi évangélique de toutes les autres. Toi, tu es venu, toi, tu as tout payé. Pour nous avoir, tu l'as fait par compassion, tu l'as fait par amour, tu l'as fait pour avoir un peuple comme épouse de Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre dans ton amour, nous pouvons savoir que tu restaures nos vies. Alors ce matin, nous voulons t'apporter ce qui est brisé, nos échecs, nous voulons apporter notre péché, nous voulons apporter nos inquiétudes, nos stress, nos difficultés. Et nous voulons croire, avec la foi que tu accordes, que ces choses, tu vas les racheter, tu vas nous libérer un jour, et nous pouvons vivre dans cette expérience. Merci pour ce culte que nous avons pu te rendre ensemble. Nous te prions que cela nous aide à vivre cette semaine et cette année devant nous, avec joie, avec amour les uns pour les autres, avec foi dans tes promesses. Je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.